Honoré de Balzac, un prince de la Bohème. À Heine. Mon cher Heine, à vous cette étude. À vous qui représentez à Paris l'esprit et la poésie de l'Allemagne, comme en Allemagne vous représentez la vive et spirituelle critique française. À vous qui savez mieux que personne ce qu'il peut y avoir ici de critique, de plaisanterie, d'amour et de vérité. De Balzac. Mon cher ami, dit madame de la Baudraye en tirant un manuscrit de dessous l'oreiller de sa causeuse, me pardonnerez-vous, dans la détresse où nous sommes, d'avoir fait une nouvelle de ce que vous nous avez dit il y a quelques jours?
Tout est de bonne prise dans le temps où nous sommes. N'avez-vous pas vu des auteurs qui, faute d'invention, servent leur propre cœur, et souvent celui de leur maîtresse, au public? On en viendra, ma chère, à chercher des aventures moins pour le plaisir d'en être les héros que pour les raconter.
Enfin, la marquise de Rochefide et vous, vous aurez payé notre loyer, et je ne crois pas, à la manière dont vont ici les choses, que je vous paie jamais le vôtre.
Qui sait?
Peut-être vous arrivera-t-il la même bonne fortune qu'à madame de Rochefide. Allez, j'écoute. Madame de la Baudraye lut ce qui suit. La scène est rue de Chartres du Roule, dans un magnifique salon. L'un des auteurs les plus célèbres de ce temps est assis sur une causeuse auprès d'une très illustre marquise avec laquelle il est intime, comme doit l'être un homme distingué par une femme qui le garde près d'elle, moins comme un pis-aller que comme un complaisant petit hôte. « Eh bien, dit-elle, avez-vous trouvé ces lettres dont vous me parliez hier et sans lesquelles vous ne pouviez pas me raconter tout ce qui le concerne ?»«
Je les ai. » »«
Vous avez la parole. Je vous écoute comme un enfant à qui sa mère raconterait le grand serpent en vert. » Entre toutes ces personnes de connaissance que nous avons l'habitude de nommer nos amis, je compte le jeune homme dont il est question. C'est un gentilhomme d'un esprit et d'un malheur infini, plein d'excellentes intentions, d'une conversation ravissante, ayant beaucoup vu déjà, quoique jeune, et qui fait partie, en attendant mieux, de la Bohème. La Bohème, qu'il faudrait appeler la doctrine du boulevard des Italiens, se compose de jeunes gens, tous âgés de plus de 20 ans, mais qui n'en ont pas 30, tous hommes de génie dans leur genre, peu connus encore, mais qui se feront connaître, et qui seront alors des gens fort distingués. On les distingue déjà dans les jours de carnaval, pendant lesquels ils déchargent le trop-plein de leur esprit, à l'étroit durant le reste de l'année, en des inventions plus ou moins drôlatiques. À quelle époque vivons-nous? Quel absurde pouvoir laisse ainsi se perdre des forces immenses? Il se trouve dans la Bohème des diplomates capables de renverser les projets de la Russie, s'ils se sentaient appuyés par la puissance de la France. On y rencontre des écrivains, des administrateurs, des militaires, des journalistes, des artistes. Enfin, tous les genres de capacités, d'esprit, y sont représentés. C'est un microcosme. Si l'empereur de Russie achetait la Bohème, moyennant une 20 millions, en admettant qu'elle voulût quitter l'asphalte des boulevards, et qu'il la déportât à Odessa, dans un an, Odessa serait Paris. Là se trouve la fleur inutile et qui se dessèche de cette admirable jeunesse française que Napoléon et Louis XIV recherchaient, que néglige depuis 30 ans la gérontocratie sous laquelle tout se flétrit en France. Belle jeunesse, dont hier encore le professeur Tissot, homme peu suspect, disait « Cette jeunesse, vraiment digne de lui, l'empereur l'employait partout. »
dans ses conseils, dans l'administration générale, dans des négociations hérissées de difficultés ou pleines de périls, dans le gouvernement des pays conquis, et partout elle répondait à son attente. Les jeunes gens étaient pour lui les Missi Dominici de Charlemagne. Ce mot de bohème vous dit tout. La bohème n'a rien et vit de ce qu'elle a. L'espérance est sa religion. La foi en soi-même est son code. La charité passe pour être son budget. Tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur. Au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin. Toujours à cheval sur un si, spirituel comme des feuilletons, gais comme des gens qui doivent, oh, ils doivent autant qu'ils boivent. Enfin, et c'est là où j'en veux venir, ils sont tous amoureux, mais amoureux! Figurez-vous, Lovelace, Henri IV, le régent, Werther, Saint-Preux, René, le maréchal de Richelieu, réunis dans un seul homme, et vous aurez une idée de leur amour. Et quels amoureux! Éclectiques par excellence en amour. Ils vous servent une passion comme une femme peut la vouloir. Leur cœur ressemble à une carte de restaurant. Ils ont mis en pratique, sans le savoir et sans l'avoir lu peut-être, le livre de l'amour par Stendhal. Ils ont la section de l'amour-goût, celle de l'amour-passion, l'amour-caprice, l'amour cristallisé et surtout l'amour passager. Tout leur est bon. Ils ont créé ce burlesque axiome. Toutes les femmes sont égales devant l'homme. Le texte de cet article est plus vigoureux. Mais comme, selon moi, l'esprit en est faux, je ne tiens pas à la lettre. Madame, mon ami se nomme Gabriel Jean Anne Victor Benjamin Georges Ferdinand Charles Édouard Rusticoli, comte de la Palferine. Les Rusticoli, arrivés en France avec Catherine de Médicis, venaient alors d'être dépossédés d'une souveraineté minime en Toscane. Un peu parents des d'Este, ils se sont alliés aux Guises. Ils ont tué beaucoup de protestants à la Saint-Barthélemy, et Charles IX leur a donné l'héritière du comté de la Palferine, confisquée sur le duc de Savoie, et que Henri IV leur a racheté tout en leur en laissant le titre. Ce grand roi fit la sottise de rendre ce fief au duc de Savoie. En échange, les comtes de la Palferine, qui portaient, avant que les Médicis eussent des armes, d'argent à la croix fleur-de-lysée d'azur. La croix fut fleur-de-lysée par lettre patente de Charles IX. Sommée d'une couronne de comte et deux paysans pour support, avec « in hoc signo vincimus » pour devise. On eut deux charges de la couronne et un gouvernement. Ils ont joué le plus beau rôle sous les Valois et jusqu'au quasi-règne de Richelieu. Puis ils se sont amoindris sous Louis XIV et ruinés sous Louis XV. Le grand-père de mon ami dévora les restes de cette brillante maison avec Mademoiselle Laguerre, qu'il produisit, lui, le premier, avant Bourré. Officier sans aucune fortune en 1789, le père de Charles-Édouard eut le bon esprit, la Révolution aidant, de s'appeler Rusticoli. Ce père, qui d'ailleurs épousa, durant les guerres d'Italie, une filleule de la comtesse Albani, une Caponi, de là le premier prénom de la Palferine, fut l'un des meilleurs colonels de l'armée. Aussi l'empereur le nomma-t-il commandant de la Légion d'honneur et le fit-il comte. Le colonel avait une légère déviation de la colonne vertébrale, et son fils dit en riant à ce sujet « Ce fut un comte refait, le général comte Rusticoli, car il devint général de brigade à Ratisbonne, mourut à Vienne après la bataille de Wagram, où il fut nommé général de division sur le champ de bataille. Son nom, son illustration italienne et son mérite lui auraient valu tôt ou tard le bâton de maréchal. Sous la Restauration, il aurait reconstitué cette grande et belle maison des La Palferine, si brillante déjà en 1100,
comme Rusticoli, car les Rusticoli avaient déjà fourni un pape et révolutionné deux fois le royaume de Naples. Enfin, si splendide sous les Valois et si habile que l'est la Palferine, quoique frondeur déterminée, existait encore sous Louis XIV. Mazarin les aimait. Il avait reconnu chez eux un reste de Toscan. Aujourd'hui, quand on nomme Charles-Édouard de la Palferine, sur 100 personnes, il n'y en a pas 3 qui sachent ce qu'est la maison de la Palferine. Mais les Bourbons ont bien laissé un Foix Graillé vivant de son pinceau. Ah, si vous saviez avec quel esprit Édouard de la Palferine a pris cette position obscure! Comme il se moque des bourgeois de 1830. Quel sel, quel atticisme! Si la Bohème pouvait souffrir un roi, il serait roi de la Bohème. Sa verve est inépuisable. On lui doit la carte de la Bohème et les noms des 7 châteaux que n'a pu trouver Nodier. C'est, dit la marquise, la seule chose qui manque à l'une des plus spirituelles railleries de notre époque. Quelques traits de mon ami la Palferine vous mettront à même de le juger, reprit Nathan. La Palferine trouve un de ses amis. L'ami était de la Bohème, en discussion sur le boulevard avec un bourgeois qui se croyait offensé. La Bohème est très insolente avec le pouvoir moderne. Il s'agissait de se battre. Un instant, dit la Palferine en devenant aussi Lauzun que Lauzun a jamais pu l'être. « Un instant, monsieur est-il né ?»« Comment, monsieur ?» dit le bourgeois. « Oui, êtes-vous né ? Comment vous nommez-vous ? » ?»«
Godin. »«
Hein ? Godin ?» dit l'ami de la Palferine. « Un instant, mon cher, » dit la Palferine en arrêtant son ami. « Il y a les Trigaudins. » « En êtes-vous ?»
Étonnement du bourgeois.
« Non, vous êtes alors des nouveaux ducs de Gaète, façon impériale. »«
Non ?
Eh bien, comment voulez-vous que mon ami, qui sera secrétaire d'ambassade et ambassadeur, à qui vous devrez un jour du respect, se battre ? Godin, cela n'existe pas. Vous n'êtes rien, Godin. Mon ami ne peut pas se battre en l'air. Quand on est quelque chose... On ne se bat qu'avec quelqu'un. Allons, mon cher, adieu.
Mes respects à madame, ajouta l'ami.
Un jour, la Palferine se promenait avec un de ses amis qui jeta le bout de son cigare au nez d'un passant. Ce passant eut le mauvais goût de se fâcher. Vous avez essuyé le feu de votre adversaire, dit le jeune comte. Les témoins déclarent que l'honneur est satisfait. Il devait 1000 francs à son tailleur, qui, au lieu de venir lui-même, envoya un matin son premier commis chez la Palferine. Ce garçon trouve le débiteur malheureux au 6e étage, au fond d'une cour, en haut du faubourg du Roule. Il n'y avait pas de mobilier dans la chambre, mais un lit. Et quel lit ! Une table, et quelle table ! La Palferine entend la demande saugrenue, et que je qualifierai, nous dit-il, d'illicite, faite à 7 heures du matin.
Allez dire à votre maître, répondit-il avec le geste et la pose de Mirabeau, l'état dans lequel vous m'avez trouvé.
Le commis recule en faisant des excuses. La Palferine voit le jeune homme sur le palier, il se lève dans l'appareil illustré par les vers de Britannicus et lui dit. Faites attention à l'escalier. Remarquez bien l'escalier, afin de ne pas oublier de lui parler de l'escalier. En quelque situation que l'ait jeté le hasard, la Palferine ne s'est jamais trouvée ni au-dessous de la crise, ni sans esprit, ni de mauvais goût. Il déploie toujours et en tout le génie de Rivarol et la finesse du grand seigneur français. C'est lui qui a trouvé la délicieuse histoire sur l'ami du banquier Lafitte, venant au bureau de la souscription nationale, proposé pour conserver à ce banquier son hôtel, où se brassa la révolution de 1830, et disant « Voici 5 francs, rendez-moi 100 sous !» On en a fait une caricature.
Il eut le malheur, en style d'acte d'accusation, de rendre une jeune fille mère. L'enfant, peu ingénu, avoue sa faute à sa mère, bonne bourgeoise qui accourt chez la palferine, et lui demande ce qu'il compte faire. « Mais, madame, je ne suis ni chirurgien ni sage-femme. » Elle fut foudroyée, mais elle revint à la charge 3 ou 4 ans après, en insistant et demandant toujours à la palferine ce qu'il comptait faire. « Oh, madame, répondit-il, quand cet enfant aura 7 ans, âge auquel les enfants passent des mains des femmes entre celles des hommes, mouvement d'assentiment chez la mère, si l'enfant est bien de moi, geste de la mère, s'il me ressemble d'une manière frappante, s'il promet d'être un gentilhomme, si je reconnais en lui mon genre d'esprit, et surtout l'air rusticoli, oh, alors, nouveau mouvement, par ma foi de gentilhomme, je lui donnerai un bâton de sucre d'orge. Tout cela, si vous me permettez d'user du style employé par M. Sainte-Beuve pour ses biographies d'inconnus, est le côté enjoué, badin, mais déjà gâté d'une race forte. Cela sent son parc Auxerre plus que son hôtel de Rambouillet. Ce n'est pas la race des doux. J'incline à conclure pour un peu de débauche, et plus que je n'en voudrais chez des natures brillantes et généreuses. Mais c'est galant dans le genre de Richelieu, folâtre et peut-être trop dans la drôlerie. C'est peut-être les outrances du XVIIIe siècle. Cela rejoint en arrière les mousquetaires, et cela fait tort à Champenet. Mais ce volage tient aux arabesques et aux enjolivements de la vieille cour des Valois. On doit sévir dans une époque aussi morale que la nôtre, à l'encontre de ces audaces. Mais ce bâton de sucre d'orge peut aussi montrer aux jeunes filles le danger de ces fréquentations d'abord pleines de rêveries, plus charmantes que sévères, roses et fleuries, mais dont les pentes ne sont pas surveillées, et qui aboutissent à des excès mûrissants, à des fautes pleines de bouillonnements ambigus, à des résultats trop vibrants. Cette anecdote peint l'esprit vif et complet de la palferine, car il a l'entre-deux que voulait Pascal. Il est tendre et impitoyable. Il est comme Épaminondas, également grand aux extrémités. Ce mot précise d'ailleurs l'époque. Autrefois, il n'y avait pas d'accoucheur. Ainsi, les raffinements de notre civilisation s'expliquent par ce trait qui restera. « Ah ça, mon cher Nathan, quel galimatia me faites-vous là ?» demanda la marquise étonnée. « Madame la marquise, répondit Nathan, vous ignorez la valeur de ces phrases précieuses. Je parle en ce moment le Sainte-Beuve, une nouvelle langue française. » Je continue. Un jour, se promenant sur le boulevard, bras dessus, bras dessous, avec des amis, la palferine voit venir à lui le plus féroce de ses créanciers qui lui dit « Pensez-vous à moi, monsieur ?»« Pas le moins du monde, » lui répondit le comte. Remarquez combien sa position était difficile. Déjà Talleyrand, en semblable circonstance, avait dit « Vous êtes bien curieux, mon cher. » Il s'agissait de ne pas imiter cet homme inimitable. Généreux comme Buckingham, et ne pouvant supporter d'être pris au dépourvu, un jour, n'ayant rien à donner à un ramoneur, le jeune comte puise dans un tonneau de raisin à la porte d'un épicier, et en emplit le bonnet du petit savoyard, qui mange très bien le raisin. L'épicier commença par rire, et finit par tendre la main à la palferine. « Oh, fi, monsieur, dit-il, votre main gauche doit ignorer ce que vient de donner ma droite. » D'un courage aventureux, Charles-Édouard ne cherche ni ne refuse aucune partie, mais il a la bravoure spirituelle. En voyant, dans le passage de l'opéra, un homme qui s'était exprimé sur son compte en termes légers, il lui donne un coup de coude en passant, puis il revient sur ses pas et lui en donne un second. « Vous êtes bien maladroit, dit-on. »«
Au contraire, je l'ai fait exprès. »
Le jeune homme lui présente sa carte.
« Elle est bien sale, » reprit-il. « Elle est par trop pochetée. Veuillez m'en donner une autre, »
ajouta-t-il en la jetant. Sur le terrain, il reçoit un coup d'épée. L'adversaire voit partir le sang et veut finir en s'écriant « Vous êtes blessé, monsieur !»«
Je nie la botte !»
répondit-il avec autant de sang-froid que s'il eût été dans une salle d'armes. Et il riposta par une botte pareille, mais plus à fond, en ajoutant « Voilà le vrai coup, monsieur !» L'adversaire resta 6 mois au lit.
Ceci, toujours en se tenant dans les eaux de M. Sainte-Beuve, rappelle les raffinés et la fine raillerie des beaux jours de la monarchie. On y voit une vie dégagée, mais sans point d'arrêt, une imagination riante qui ne nous est donnée qu'à l'origine de la jeunesse. Ce n'est plus le velouté de la fleur, mais il y a du grain desséché, plein, fécond, qui assure la saison d'hiver. Ne trouvez-vous pas que ces choses annoncent quelque chose d'inassouvi, d'inquiet, ne s'analysant pas, ne se décrivant point, mais se comprenant, et qui s'embraserait en flammes éparses et hautes si l'occasion de se déployer arrivait? C'est l'acédia du cloître, quelque chose d'aigri, de fermenté dans l'inoccupation croupissante des forces juvéniles, d'une tristesse vague et obscure. « Assez !» dit la marquise. « Vous me donnez des douches à la cervelle. »
« C'est l'ennui des après-midi. On est sans emploi. On fait mal plutôt que de ne rien faire. Et c'est ce qui arrivera toujours en France. La jeunesse en ce moment a deux côtés. Le côté studieux des méconnus, le côté ardent des passionnés.
« Assez !»
répéta Madame de Rochefide avec un geste d'autorité.
« Vous m'agacez les nerfs !»«
Je me hâte, pour achever de vous peindre à la palferine, de me jeter dans ces régions galantes, afin de vous faire comprendre le génie particulier de ce jeune homme, qui représente admirablement une portion de la jeunesse malicieuse, de cette jeunesse assez forte pour rire de la situation où la met l'ineptie des gouvernants, assez calculatrice pour ne rien faire en voyant l'inutilité du travail, assez vive encore pour s'accrocher au plaisir, la seule chose qu'on ait pu lui ôter. Mais une politique, à la fois bourgeoise, mercantile et bigote, va supprimant tous les déversoirs où se répandraient tant d'aptitudes et de talents. Rien pour ces poètes, rien pour ces jeunes savants. Pour vous faire comprendre la stupidité de la nouvelle cour, voici ce qui est arrivé à la palferine. Il existe à la liste civile un employé au malheur. Cet employé apprit un jour que la palferine était dans une horrible détresse. Il fit sans doute un rapport et il apporta 50 francs à l'héritier des Rusticoli. La palferine reçut ce monsieur avec une grâce parfaite et l'entretint des personnages de la cour. « Est-il vrai ? Demanda-t-il, que mademoiselle d'Orléans contribue pour telle somme à ce beau service entrepris pour son neveu? Ce sera fort beau. » La palferine avait donné le mot à un petit savoyard de 10 ans, appelé par lui le père en chise, lequel le sert pour rien et duquel il dit « Je n'ai jamais vu tant de niaiseries réunies à tant d'intelligence. Il passerait dans le feu pour moi. Il comprend tout et ne comprend pas que je ne puis rien pour lui. » Anchise ramena de chez un loueur de carrosses un magnifique coupé, derrière lequel il y avait un laquais. Au moment où la palferine entendit le bruit du carrosse, il avait habilement amené la conversation sur les fonctions de ces messieurs, qu'il appelle depuis « l'homme aux misères sans écart ». Il s'était informé de sa besogne et de son traitement. « Vous donne-t-on une voiture pour courir ainsi la ville ?»«
Oh non » répondit-il.
Sur ce mot, la palferine et l'ami qui se trouvait avec lui accompagnent le pauvre homme, descendent et le forcent à monter en voiture, car il pleuvait à torrents. La palferine avait tout calculé. Il offrit de conduire l'employé là où l'employé allait. Quand le distributeur des aumônes eut fini sa nouvelle visite, il retrouva l'équipage à la porte. Le laquais lui remit ce mot écrit au crayon. « La voiture est payée pour 3 jours par le comte Rusticoli de la palferine. Trop heureux de s'unir aux charités de la cour en donnant des ailes à ses bienfaits. » La palferine appelle maintenant la liste civile une liste incivile. Il fut passionnément aimé d'une femme dont la conduite était un peu légère. Antonia demeurait rue de Helder et y était remarquée. Mais dans le temps où elle connut le comte, elle n'avait pas encore été à pied. Elle ne manquait pas de cette impertinence d'autrefois que les femmes d'aujourd'hui ont ravalée jusqu'à l'insolence. Après 15 jours d'un bonheur sans mélange, cette femme fut obligée de revenir, dans les intérêts de sa liste civile, à un système de passion moins exclusive. En s'apercevant qu'on manquait de franchise avec lui, la palferine écrivit à Madame Antonia cette lettre qui la rendit célèbre. « Madame, votre conduite m'étonne autant qu'elle m'afflige. Non contente de me déchirer le cœur par vos dédains, vous avez l'indélicatesse de me retenir une brosse à dents, que mes moyens ne me permettent pas de remplacer, mes propriétés étant grevées d'hypothèques au-delà de leur valeur. Adieu, trop belle et trop ingrate amie. Puissions-nous nous revoir dans un monde meilleur. Charles-Édouard. » Assurément, toujours en nous servant du style macaronique de M. Sainte-Beuve, ceci surpasse de beaucoup la raillerie de Sterne dans Le Voyage sentimental. Ce serait Scarron sans sa grossièreté. Je ne sais même si Molière, dans ses Bonnes, n'aurait pas dit, comme du meilleur de Cyrano, « Ceci est à moi. » Richelieu n'a pas été plus complet en écrivant à la princesse qui l'attendait dans la cour des cuisines au palais royal. « Restez-y, ma reine, pour charmer les marmitons. » Encore la plaisanterie de Charles-Édouard est-elle moins âcre. Je ne sais si les Romains, si les Grecs ont connu ce genre d'esprit. Peut-être Platon, en y regardant bien, en a-t-il approché, mais du côté sévère et musical. « Laissez ce jargon, dit la marquise. Cela peut s'imprimer, mais m'en écorcher les oreilles est une punition que je ne mérite point. » Voici comment il fit la rencontre de Claudine, reprit Nathan. Un jour, un de ces jours inoccupés où la jeunesse se trouve à charge à elle-même, et comme Blondet sous la Restauration, ne sort de son énergie et de l'abattement auquel la condamne d'outrecuidant vieillard que pour mal faire, pour entreprendre de ces énormes bouffonneries qui ont leur excuse dans l'audace même de leur conception, la palferine errait, le long de sa canne, sur le même trottoir, entre la rue de Gramont et la rue Richelieu. De loin, il voit une femme mise trop élégamment, et, comme il le dit, garnie d'effets trop coûteux, et portée trop négligemment pour n'être pas une princesse de la cour ou de l'opéra. Mais après juillet 1830, selon lui, l'équivoque est impossible. La princesse devait être de l'opéra. Le jeune comte se met aux côtés de cette femme, comme s'il lui avait donné un rendez-vous. Il la suit avec une opiniâtreté polie, avec une persistance de bon goût, en lui lançant des regards pleins d'autorité, mais à propos, et qui forcèrent cette femme à se laisser escorter. Un autre eût été glacé par l'accueil, déconcerté par les premiers chassés-croisés de la femme, par le froid piquant de son air, par des mots sévères. Mais la palferine lui dit de ces mots plaisants contre lesquels ne tient aucun sérieux, aucune résolution. Pour se débarrasser de lui, l'inconnu entre chez sa marchande de mode. Charles-Édouard y entre, il s'assied, il donne son avis, il la conseille en homme prêt à payer. Ce sang-froid inquiète la femme. Elle sort. Sur l'escalier, l'inconnu dit à la palferine, son persécuteur, « Monsieur,
Je vais chez une parente de mon mari, une vieille dame, Madame de Bonfalo.
Oh, Madame de Bonfalo, répond le comte. Mais je suis charmé, j'y vais.
Le couple y va. Charles-Édouard entre avec cette femme, on le croit amené par elle, il se mêle à la conversation, il y prodigue son esprit fin et distingué. La visite traînait en longueur. Ce n'était pas son compte. «
Madame, dit-il à l'inconnue, n'oubliez pas que votre mari nous attend, il ne nous a donné qu'un quart d'heure. »
Confondu par cette audace, qui, vous le savez, vous plaît toujours, entraîné par ce regard vainqueur, par cet air profond et candide à la fois que sait prendre Charles-Édouard, elle se lève, accepte le bras de son cavalier forcé, descend et lui dit sur le seuil de la porte.
« Monsieur, j'aime la plaisanterie. »«
Et moi donc ? » dit-il. Elle rit.
« Mais il ne tient qu'à vous que cela ne devienne sérieux, » reprit-il.
« Je suis le comte de la Palferine, et je suis enchanté de pouvoir mettre à vos pieds et mon cœur et ma fortune. »
La Palferine avait alors 22 ans. Ceci se passait en 1834. Par bonheur, ce jour-là, le comte était mis avec élégance. Je vais vous le peindre en deux mots. C'est le vivant portrait de Louis XIII. Il en a le front pâle, gracieux aux tempes, le teint olivâtre, ce teint italien qui devient blanc aux lumières, les cheveux bruns, portés longs, et la royale noire. Il en a l'air sérieux et mélancolique, car sa personne et son caractère forment un contraste étonnant. En entendant le nom et voyant le personnage, Claudine éprouve comme un frémissement. La Palferine s'en aperçoit, il lui lance un regard de ses yeux noirs profonds, fendus en amande, aux paupières légèrement ridées et bistrées, qui révèlent des joies égales à d'horribles fatigues. Sous ce coup d'œil, elle lui dit « Votre adresse !»«
Quelle maladresse » répondit-il.
« Ah bah ! » fit-elle en souriant. « Oiseau sur la branche !»«
Adieu, madame. Vous êtes une femme comme il m'en faut, mais ma fortune est loin de ressembler à mon désir. »
Il salue et la quitte net, sans se retourner. Le surlendemain, par une de ces fatalités qui ne sont possibles que dans Paris, il alla chez un de ces marchands d'habits qui prêtent sur gage lui vendre le superflu de sa garde-robe. Il recevait d'un air inquiet le prix, après l'avoir longtemps débattu, quand l'inconnu passe et le reconnaît.
« Décidément, crie-t-il au marchand stupéfait, je ne prends pas votre trompe. »
Et il indiquait une énorme trompe bosselée, accrochée en dehors et qui se dessinait sur des habits de chasseurs d'ambassade et de généraux de l'Empire. Puis, fier et impétueux, il resuivit la jeune femme. Depuis cette grande journée de la trompe, ils s'entendirent à merveille. Charles-Édouard a sur l'amour les idées les plus justes. Il n'y a pas, selon lui, deux amours dans la vie de l'homme. Il n'y en a qu'un seul, profond comme la mer, mais sans rivage. À tout âge, cet amour fond sur vous comme la grâce fondit sur saint Paul. Un homme peut vivre jusqu'à 60 ans sans l'avoir ressenti. Cet amour, selon une superbe expression de Heine, est peut-être la maladie secrète du cœur, une combinaison du sentiment de l'infini qui est en nous et du beau idéal qui se révèle sous une forme visible. Enfin, cet amour embrasse à la fois la créature et la création. Tant qu'il ne s'agit pas de ce grand poème, on ne peut traiter qu'en plaisantant des amours qui doivent finir, en faire ce que sont en littérature les poésies légères comparées aux poèmes épiques. Charles-Édouard n'éprouva dans cette liaison ni ce coup de foudre qui annonce ce véritable amour, ni la lente révélation des attraits, la reconnaissance des qualités secrètes qui attachent deux êtres par une puissance croissante. L'amour vrai n'a que ses deux modes. Ou la première vue,
qui sans doute est un effet de la seconde vue écossaise, ou la graduelle fusion des deux natures, qui réalise l'androgyne platonique. Mais Charles-Édouard fut aimé follement. Cette femme éprouvait l'amour complet, idéal et physique. Enfin, la palférine fut sa vraie passion à elle. Pour lui, Claudine n'était qu'une délicieuse maîtresse. Le diable, avec son enfer, qui certes est un puissant magicien, n'aurait jamais pu changer le système de ces deux caloriques inégaux. J'ose affirmer que Claudine ennuyait souvent Charles-Édouard. Au bout de 3 jours, la femme qu'on n'aime pas et le poisson gardé sont bons à jeter par la fenêtre, nous disait-il. En Bohême, le secret s'observe peu sur les amours légères. La palférine nous parla souvent de Claudine. Néanmoins, personne de nous ne la vit, et jamais son nom de femme ne fut prononcé. Claudine était presque un personnage mythique. Nous en agissions tous de même, conciliant ainsi les exigences de notre vie en commun et les lois du bon goût. Claudine, Hortense, la baronne, la bourgeoise, l'impératrice, la lionne, l'espagnole, étaient des rubriques qui permettaient à chacun d'épancher ses joies, ses soucis, ses chagrins, ses espérances, et de communiquer ses découvertes. On n'allait pas au-delà. Il y a exemple, en Bohême, d'une révélation faite par hasard de la personne dont il était question. Aussitôt, par un accord unanime, aucun de nous ne parla plus d'elle. Ce fait peut indiquer combien la jeunesse a le sens des vraies délicatesses. Quelle admirable connaissance ont les gens de choix des limites où doivent s'arrêter la raillerie, et ce monde de choses françaises désigné sous le mot « soldatesque de blague », mot qui sera repoussé de la langue, espérons-le, mais qui seul peut faire comprendre l'esprit de la bohème. Nous plaisantions donc souvent sur Claudine et sur le comte. C'était des « Que fais-tu de Claudine ?»« Et ta Claudine ?»« Toujours Claudine ?» chanté sur l'air de « Toujours Gessler » de Rossini, etc. « Je vous souhaite, pour le mal que je vous veux, nous dit un jour la palférine, une semblable maîtresse. Il n'y a pas de lévrier, de basset, de caniche qui lui soit comparable pour la douceur, la soumission, la tendresse absolue. Il y a des moments où je me fais des reproches, où je me demande compte à moi-même de ma dureté. Claudine obéit avec une douceur de sainte. Elle vient, je la renvoie, elle s'en va, elle ne pleure que dans la cour. Je ne veux pas d'elle pendant une semaine. Je lui assigne le mardi suivant, à certaines heures, fût-ce minuit ou 6 heures du matin, 10 heures ou 5 heures, les moments les plus incommodes, celui du déjeuner, du dîner, du lever, du coucher. Oh, elle viendra belle, parée, ravissante, à 7 heures exactement. Et elle est mariée, entortillée dans les obligations et les devoirs d'une maison. Les ruses qu'elle doit inventer, les raisons à trouver pour se conformer à mes caprices, nous embarrasseraient, nous autres. Rien ne la lasse. Elle tient bon. Je le lui dis. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'entêtement. Elle m'écrit tous les jours. Je ne lis pas ses lettres. Elle s'en est aperçue. Elle écrit toujours. Tenez, voilà 200 lettres dans ce coffre. Elle me prie de prendre chaque jour une de ses lettres pour essuyer mes rasoirs, et je n'y manque pas. Elle croit, avec raison, que la vue de son écriture me fait penser à elle. La palférine s'habillait en nous disant cela. Je pris la lettre dont il allait se servir, je la lus et la gardai sans qu'il la réclamât. La voici, car selon ma promesse, je l'ai retrouvée. Lundi. Minuit. Eh bien, mon ami, êtes-vous content de moi? Je ne vous ai pas demandé cette main. Qu'il vous eût été facile de me donner, et que je désirais tant de presser sur mon cœur, sur mes lèvres. Non, je ne vous l'ai pas demandé. Je crains trop de vous déplaire. Savez-vous une chose? Bien que je sache cruellement que mes actions vous sont parfaitement indifférentes, je n'en deviens pas moins d'une extrême timidité dans ma conduite. La femme qui vous appartient, à quelque titre que ce soit, et bien que très secrètement, doit éviter d'encourir le plus léger blâme. Et ce qui est des anges du ciel, pour lesquels il n'y a pas de secret, mon amour est égal aux plus purs amours. Mais partout où je me trouve, il me semble que je suis toujours en votre présence, et je veux vous faire honneur. Tout ce que vous m'avez dit sur ma manière de me mettre m'a frappé et m'a fait comprendre combien les gens de race noble sont supérieurs aux autres. Il me restait quelque chose de la fille d'opéra dans la coupe de mes robes, dans mes coiffures. En un moment, j'ai reconnu la distance qui me séparait du bon goût. La première fois, vous recevrez une duchesse. Vous ne me reconnaîtrez pas. Oh, combien tu as été bon pour ta Claudine! Combien de fois je t'ai remercié de m'avoir dit tout cela! Quel intérêt dans ce peu de paroles! Tu t'es donc occupé de cette chose à toi qui se nomme Claudine! Ce n'est pas cet imbécile qui m'aurait éclairé. Il trouve bien tout ce que je fais. Il est d'ailleurs bien trop pot-au-feu, trop prosaïque pour avoir le sens du beau. Mardi va bien tarder à mon impatience. Mardi, près de vous pendant plusieurs heures. Ah! Je m'efforcerai, mardi, de penser que ces heures sont des mois et que je suis ainsi toujours. Je vis en espoir dans cette matinée comme je vivrai plus tard quand elle sera passée par le souvenir. L'espoir est une mémoire qui désire. Le souvenir est une mémoire qui a joui. Quelle belle vie dans la vie nous fait ainsi la pensée. Je songe à inventer des tendresses qui ne seront qu'à moi, dont le secret ne sera deviné par aucune femme. Il me prend des sueurs froides qu'il n'arrive un empêchement. Oh, je briserai net avec lui s'il le fallait. Mais ce n'est pas d'ici que jamais viendra l'empêchement. C'est de toi. Tu pourras vouloir aller dans le monde, chez une autre femme peut-être. Oh, grâce pour ce mardi. Si tu me l'enlevais, Charles, tu ne sais pas tout ce que tu lui vaudrais. Je le rendrais fou. Si tu ne voulais pas de moi, si tu allais dans le monde, laisse-moi venir tout de même. Te voir habillée, rien que te voir, je n'en demande pas davantage. Laisse-moi te prouver ainsi combien je t'aime purement. Depuis que tu m'as permis de t'aimer, car tu me l'as permis puisque je suis à toi, depuis ce jour, je t'aime de toute la puissance de mon âme et je t'aimerai toujours. Car après t'avoir aimé, on ne peut plus, on ne doit plus aimer personne. Et vois-tu, quand tu te verras sous un regard qui ne veut que voir, tu sentiras qu'il y a chez ta Claudine quelque chose de divin que tu y as éveillé. Hélas, je ne suis point coquette avec toi. Je suis comme une mère avec son enfant. Je souffre tout de toi. Moi, si impérieuse, si fière ailleurs. Moi qui faisais trotter des ducs, des princes, des aides de camp de Charles X, qui valait plus que toute la cour actuelle, je te traite en enfant gâté. Mais à quoi bon des coquetteries? Ce serait en pure perte. Et cependant, faute de coquetterie, je ne vous inspirerai jamais d'amour, monsieur. Je le sais, je le sens, et je continue en éprouvant l'action d'un pouvoir irrésistible. Mais je pense que cet entier abandon me vaudra de vous ce sentiment qu'il dit être chez tous les hommes pour ce qui est leur propriété. Mercredi. Oh, comme la tristesse est entrée noire dans mon cœur lorsque j'ai su qu'il fallait renoncer au bonheur de te voir hier. Une seule idée m'a empêché de me laisser aller dans les bras de la mort. Tu le voulais. Ne pas venir, c'était exécuter ta volonté. Obéir à l'un de tes ordres. Ah, Charles, j'étais si jolie. Tu aurais eu en moi mieux que cette belle princesse allemande que tu m'avais donnée en exemple et que j'avais étudiée à l'opéra. Mais tu m'aurais peut-être trouvée hors de ma nature. Tiens, tu m'as ôté toute confiance en moi. Je suis peut-être laide. Oh, je me fais horreur. Je deviens imbécile en songeant à mon radieux Charles-Édouard. Je deviendrai folle, c'est sûr. Ne ris pas, ne me parle pas de la mobilité des femmes. Si nous sommes mobiles, vous êtes bien bizarres, vous. ôter à une pauvre créature les heures d'amour qui la faisaient heureuse depuis 10 jours, qui la rendaient bonne et charmante pour tous ceux qui la venaient voir. Enfin, tu étais cause de ma douceur avec lui. Tu ne sais pas le mal que tu lui fais. Je me suis demandé ce que je dois inventer pour te conserver, ou pour avoir seulement le droit d'être quelquefois à toi. Quand je pense que tu n'as jamais voulu venir ici, avec quelle délicieuse émotion je te servirais. Il y en a de plus favorisés que moi. Il y a des femmes à qui tu dis « Je vous aime ». À moi, tu n'as jamais dit que « Tu es une bonne fille ». Sans que tu le saches, il est certains mots de toi qui me ronchent le cœur. Il y a des gens d'esprit qui me demandent quelquefois à quoi je pense. Je pense à mon abjection, qui est celle de la plus pauvre pécheresse en présence du Sauveur. Il y a, vous le voyez, encore 3 pages. Il me laisse apprendre cette lettre, où vit des traces de larmes qui me semblèrent encore chaudes. Cette lettre me prouva que la palferine nous disait vrai. Marcas, assez timide avec les femmes, s'extasiait sur une lettre semblable qu'il venait de lire dans son coin avant d'en allumer son cigare. « Mais toutes les femmes qui aiment écrivent de ces choses-là !» s'écria la palferine. « L'amour leur donne à toutes de l'esprit et du style, ce qui prouve qu'en France, le style vient des idées et non des mots. Voyez comme cela est bien pensé, comme un sentiment est logique !» Et il nous lut une autre lettre qui était bien supérieure aux lettres factices tant étudiées que nous tâchons de faire, nous autres auteurs de romans. Un jour, la pauvre Claudine ayant su la palferine dans un danger excessif à cause d'une lettre de change, eut la fatale idée de lui apporter dans une bourse, ravissamment brodée, une somme assez considérable en or. « Qui t'a faite si hardie ?» « De te mêler des affaires de ma maison ?» lui cria la palferine en colère. « Raccommode mes chaussettes, brode-moi des pantoufles, si ça t'amuse. Mais, ah, tu veux faire la duchesse, et tu retournes la fable de Danaé contre l'aristocratie. » En disant ces mots, il vida la bourse dans sa main et fit le geste de jeter la somme à la figure de Claudine. Claudine, épouvantée et ne devinant pas la plaisanterie, se recula, heurta une chaise et alla tomber la tête la première sur l'angle aigu de la cheminée. Elle se crut morte. La pauvre femme ne dit qu'un mot. Quand, mise sur le lit, elle put parler. « Je l'ai mérité, Charles !» La palferine eut un moment de désespoir. Ce désespoir rendit la vie à Claudine. Elle fut heureuse de ce malheur. Elle en profita pour faire accepter la somme à la palferine, et le tirer d'embarras. Puis ce fut le contre-pied de la fable de La Fontaine, où un mari rend grâce au voleur de lui faire connaître un mouvement de tendresse chez sa femme. À ce propos, un mot vous expliquera la palferine tout entier. Claudine revint chez elle. Elle arrangea comme elle le put un roman pour justifier sa blessure, et fut dangereusement malade. Il se fit un abcès à la tête. Le médecin Bianchon, je crois, oui, ce fut lui, voulut un jour faire couper les cheveux de Claudine, qui a des cheveux aussi beaux que ceux de la duchesse de Berry. Mais elle s'y refusa, et dit en confidence à Bianchon qu'elle ne pouvait pas les laisser couper sans la permission du comte de la palferine. Bianchon vint chez Charles-Édouard, Charles-Édouard l'écoute gravement, et quand Bianchon lui a longuement expliqué le cas et démontré qu'il faut absolument couper les cheveux pour faire sûrement l'opération, « Couper les cheveux de Claudine » s'écria-t-il d'une voix péremptoire. « Non, j'aime mieux la perdre !» Bianchon, après 4 ans, parle encore du mot de la palferine, et nous en avons ri pendant une demi-heure. Claudine, instruite de cet arrêt, y vit une preuve d'affection. Elle se crut aimée. En face de sa famille en larmes, de son mari à genoux, elle fut inébranlable. Elle garda ses cheveux. L'opération, secondée par cette force intérieure que lui donnait la croyance d'être aimée, réussit parfaitement. Il y a de ces mouvements d'âme qui mettent en désordre toutes les brigoles de la chirurgie et les lois de la science médicale. Claudine écrivit, sans orthographe, sans ponctuation, une délicieuse lettre à la Palferine pour lui apprendre l'heureux résultat de l'opération, en lui disant que l'amour en savait plus que toutes les sciences. « Maintenant, nous disait un jour la Palferine, comment faire pour me débarrasser de Claudine ?»«
Mais elle n'est pas gênante, elle te laisse maître de tes actions. »«
C'est vrai, dit la Palferine, mais je ne veux pas qu'il y ait dans ma vie quelque chose qui s'y glisse sans mon consentement. » Dès ce jour, il se mit à tourmenter Claudine. Il avait dans la plus profonde horreur une bourgeoise, une femme sans nom. Il lui fallait absolument une femme titrée. Elle avait fait des progrès, c'est vrai. Claudine était mise comme les femmes les plus élégantes du faubourg Saint-Germain. Elle avait su sanctifier sa démarche, elle marchait avec une grâce chaste, inimitable, mais ce n'était pas assez. Ses éloges faisaient tout avaler à Claudine. « Eh bien, lui dit un jour la Palferine, si tu veux rester la maîtresse d'un la Palferine, pauvre sans le sou, sans avenir, au moins dois-tu le représenter dignement. Tu dois avoir un équipage, des laquais, une livrée, un titre. Donne-moi toutes les jouissances de vanité que je ne puis pas avoir par moi-même. La femme que j'honore de mes bontés ne doit jamais aller à pied. Si elle est éclaboussée, j'en souffre. Je suis fait comme cela, moi. Ma femme doit être admirée de tout Paris. Je veux que tout Paris m'envie mon bonheur. Qu'un petit jeune homme, voyant passer dans un brillant équipage une brillante comtesse, se dise « À qui sont de pareilles divinités ?» et reste pensif. Cela doublera mes plaisirs. » La Palferine nous avoua qu'après avoir lancé ce programme à la tête de Claudine pour s'en débarrasser, il fut étourdi pour la première et sans doute pour la seule fois de sa vie. « Mon ami, dit-elle avec un son de voix qui trahissait un tremblement intérieur et universel, c'est bien, tout cela sera fait, ou je mourrai. » Elle lui baisa la main et y mit quelques larmes de bonheur. « Je suis heureuse, ajouta-t-elle, que tu m'aies expliqué ce que je dois être pour rester ta maîtresse. » « Et, nous disait la Palferine, elle est sortie en me faisant un petit geste coquet de femme contente. Elle était sur le seuil de ma mansarde, grandie, fière, à la hauteur d'une sibylle antique. » Tout ceci doit vous expliquer assez les mœurs de la bohème, dont une des plus brillantes figures est ce jeune condottiere, reprit Nathan, après une pause. « Maintenant, voici comment je découvris qui était Claudine, et comment je pus comprendre tout ce qu'il y avait d'épouvantablement vrai dans un mot de la lettre de Claudine, auquel vous n'avez peut-être pas pris garde. »